Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5 et je suis en compagnie de Jabberwock, la compagnie Jabberwock. Dans cette compagnie, nous avons dans ce studio Didier qui est fondateur et directeur artistique et Anaïs qui fait partie de la médiation culturelle. Comment ça va ?
Ça roule, nickel. Bonjour.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire Jabberwock tout d'abord ?
Alors, le Jabberwock, c'est à la base un poème de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, entre autres, et qui a écrit dans la suite d'Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle À travers le miroir. L'héroïne, Alice, tombe sur un poème qui est écrit de manière bizarre, et un peu comme les écrits de Léonard de Vinci, il faut prendre un miroir pour déchiffrer le poème. Et le Jabberwock, c'est une sorte de poèmes écrits avec ce qu'on appelle des mots valises. C'est des mots qui a priori n'ont aucun sens, c'est des mots inventés. Et donc ce poème-là, qui raconte une histoire un peu d'un jeune héros qui est avec son épée et qui doit vaincre un monstre terrifiant, le Jabberwock, c'est un peu un poème initiatique. Et c'est aussi un défi pour les traducteurs du monde entier qui, depuis que ce poème écrit en anglais bien sûr existe, ont essayé de proposer des traductions à base de mots inventés dans leur langue respective.
Trop bien. Et t'as essayé, toi, de donner une définition à ce poème ?
Non. L'interpréter, déjà, c'est pas mal. Ouais. Mais ça résume bien, le mantra de la compagnie, qui est créer des liens entre les différentes cultures et puis essayer, de, même si on ne parle pas la même langue, même si on ne vient pas du même endroit, de considérer l'autre comme notre égal. Voilà.
D'accord. Vous êtes une compagnie de théâtre, du coup, ça fait combien de temps que tu as fondé cette compagnie ?
Eh bien, la compagnie existe depuis 2011. C'est une compagnie qui est née, on va dire, de la désintégration d'une compagnie qui s'appelait Les Guéribans avant, qui a existé pendant une dizaine d'années, où on a commencé dans le théâtre universitaire et puis on s'est professionnalisé. Et puis, après, on va dire, 10 ou 11 ans de collectif. Certains d'entre nous ont eu envie de se lancer dans des aventures qui sont plus cinématographiques. Alors il y a des gens qui sont allés faire de la réal ou de la télé, comme Samuel Baudin, qui maintenant est réalisateur pour le cinéma, la télévision. Ils ont fait Lazy Company, la série Tank, tout ça. Ouais. Donc ça, c'est les copains. Et puis, après, on est aussi certains autres qui sont restés dans le théâtre, comme Charlotte Gosselin, qui elle a fondé la compagnie L'Arc Électrique. Et puis, moi, j'ai fondé la compagnie Jabberwock, ayant déjà pas mal de liens avec l'étranger, en travaillant beaucoup à l'international depuis des années. L'idée, c'était de rassembler un petit peu tout ça, toutes ces envies de travailler avec des artistes internationaux, et puis de les faire venir en région centre, et à Tours en particulier, pour faire des spectacles made in Tours, made in région centre, mais avec des artistes qui viennent d'un peu partout et puis qui ont des actions sur le territoire avec les gens de la ville, de la région.
D'accord, donc vous proposez des résidences, c'est ça, pour les artistes, pour qu'ils puissent continuer à créer des spectacles et aussi des commandes de votre part.
Voilà, en fait, moi je suis metteur en scène, directeur artistique, donc je fais je travaille beaucoup avec des auteurs. On a travaillé là depuis 2011 sur 6 spectacles. En fait, au moment où la compagnie était fondée, je prenais la direction du théâtre universitaire, où je suis resté 3 ans. Donc Marc-Antoine Cyr, qui est un auteur québécois avec qui on a beaucoup travaillé sur 5 spectacles au théâtre universitaire et dans le cadre de la compagnie, nous a accompagnés sur 2 années au théâtre universitaire et puis ensuite plusieurs spectacles au sein de la compagnie. Quand je parle de... C'est pas tant créer des résidences. Nous, on crée des spectacles, donc on va bien sûr travailler en résidence, mais c'est plutôt créer une sorte de famille d'artistes, de groupe d'artistes qui est assez ouvert, puisqu'il y a toujours des gens qui viennent, qui vont, qui viennent, mais plus créer comme... une sorte de pôle de ressources artistiques qui vont travailler ensemble pour chacun des spectacles. Donc il y a des vidéastes, il y a des artistes, bien sûr des comédiens, des comédiennes, des gens qui sont plus des auteurs, des techniciens de pointe, on a des geeks de la technologie aussi, des choses comme ça pour créer des spectacles ensemble.
Puis créer du lien aussi entre des gens qui n'auraient pas forcément eu ce lien-là sans... Le Jabberwock, du coup.
Exactement.
Le fameux mystère.
Le fameux mystère, voilà.
Parfait. Toi, tu as commencé le théâtre il y a combien de temps ?
Oula,
On se replonge.
C'était à l'âge de pierre. C'était en 1996.
D'accord.
Voilà, j'étais au lycée, en première, et je sais pas, j'ai commencé même en terminale. Donc, oui, c'était 96 aussi. Mais j'ai commencé le théâtre machinalement, parce qu'il y avait des filles au cours de théâtre. Et puis, je me suis dit que c'était une bonne occasion de socialiser. Donc, voilà.
Toujours une bonne motivation.
Exactement. Et puis, finalement, je suis assez vite, j'ai été très... très séduit, très impliqué, et j'ai eu la chance de travailler très rapidement. Mon premier contrat, on va dire professionnel, c'était 1997, ouais. Avec une compagnie du coin, et ça a vraiment été un pied à l'étrier. Après, je suis passé par la fac de Tours, le conservatoire de Tours, et puis ensuite par une formation, une école en Angleterre. Et puis après, voilà, ça s'est fait, on va dire, une transition en douceur, parce que j'ai fait mes études quand même à la fac à Tours en maîtrise d'anglais.
D'accord.
Et puis, voilà, c'est-à-dire j'ai rempli les critères. Il fallait que je... C'était une sorte de deal avec mon père.
Oui.
On fait un peu les études et puis ensuite, on verra. Donc voilà, et puis la transition s'est faite en douceur. Mais voilà, je fais plus que ça depuis 2002.
Ah ouais. Voilà. Et du coup aussi ça te permet du coup ces études en parallèle de faire du coup tes projets internationaux comme enfin je pense hein, comme tu as envie via cette langue qui est l'anglais et qui permet du moins de faire du lien avec à peu près tous les peuples.
Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vraiment important pour moi, pour nous d'avoir un ancrage vraiment à Tours, qui est la ville où je suis né. Et puis de pouvoir avancer comme ça avec tous les partenaires qu'on s'est fait au cours des années. Ici à Tours, en région, et puis un peu partout en France et ailleurs.
Ça n'a pas été difficile, du coup tu parlais du coup de ton père qui, bon, on va faire des études et tout, de continuer à croire du coup, à dire mais un jour, l'argent que j'aurai dans mes poches, ce qui fera me nourrir, qui fera nourrir mon entourage, ça va être ma création.
Ouais, disons que je sais pas si je pensais les choses véritablement comme ça. C'est vrai que je faisais mes études. Moi, je suis très heureux. Il n'y a pas du tout de pression. Je suis très heureux d'avoir fait mes études et puis d'avoir réussi à mener ces études universitaires qui sont importantes pour moi et puis qui m'ont beaucoup apporté. Effectivement par l'anglais et puis par la pratique que j'en ai au quotidien dans le travail et puis dans les relations amicales et professionnelles que j'ai pu créer. Mais j'ai toujours été très motivé par les projets que j'ai faits, qu'on a fait avec les copains dans la compagnie dont je parlais tout à l'heure, les Guribans. Ça nous a renforcé d'être ensemble. Il y a quelque chose aussi dans la compagnie Jabberwock actuellement qui est... on est plus fort ensemble que tout seul dans son coin. Et c'est cette persévérance-là qui fait que je pense qu'on...
Je te demande ça parce que j'ai été un chouïa dans le milieu du théâtre, du coup au lycée, où j'avais une option lourde. Et moi, j'ai jamais eu vraiment l'intention ou la prétention de rentrer dans le milieu du théâtre. Mais j'avais des amis qui étaient vraiment motivés. Et on pouvait entendre des choses comme... mais déjà, moi, je suis noir, donc je vais pas pouvoir y arriver. Enfin, des choses comme ça, tu vois. Au final, c'est... Enfin, bonheur à eux, ceux qui ont réussi, maintenant. Donc, vraiment, c'est génial. Mais du coup, ouais, de rappeler aussi qu'il faut porter ses projets auprès des jeunes qui nous écoutent.
Oui, et puis heureusement, il y a beaucoup plus de diversité dans le milieu théâtral, maintenant. C'était encore le cas... Je vais pas me faire des amis, mais ça a été un milieu quand même très blanc pendant des années. Les acteurs étrangers, les acteurs à la peau noire, voilà, étaient très très peu nombreux. Et maintenant, on le voit. Je travaille beaucoup au conservatoire, non seulement au conservatoire à Tours, dans d'autres conservatoires, dans des écoles de théâtre, et on voit que le travail d'ouverture qui a été fait de mixité sociale, c'est vachement bien fait, c'est super. Et maintenant, y a vraiment des, on va dire, des cours de conservatoire qui ressemblent à la population française actuellement. Voilà, c'est vachement bien.
C'est beaucoup plus ouvert aussi.
Exactement.
Peut-être.
Ouais.
On va faire une petite pause de musique et puis après, comme ça, on pourra revenir sur les projets du coup du Jabberwock. Je vous propose un morceau de La Canaille qui s'appelle Accalmie. Et j'ai choisi ce morceau parce que il y a un des morceaux de La Canaille qu'il a fait avec un acteur, et je vous donnerai le nom de l'acteur juste après la musique parce que je l'ai oublié, et où l'acteur joue un SDF sur une bouche d'égout, et le morceau est vraiment très prenant. Donc je l'ai pas mis à la radio parce qu'il est vraiment long, il dure 10 minutes. Donc je vous propose un autre morceau de La Canaille. À tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5.
Sofiane, j'ai 40 ans, je suis chariste. J'ai découvert ton son, l'usine, il n'y a pas longtemps. T'as résumé la vie de mon père dans ce titre en 5 minutes. Je te garantis que là où j'habite, il n'y a que des boîtes qui luttent. Pris dans les taux entre les religieux et les fachos, v'là le gâchis. Ma cité ouvrière prend des airs de cachot. Ouais, cette époque restera dans l'histoire un cas d'école, titré à la gloire de la bêtise et de ses années folles. Moi aussi, dès que je peux, je prends le stylo et je griffonne. Sans prétention, je pose des mots sur les mots qui me chiffonnent. Ça me fait du bien, j'écris ce que ne dit pas ma bouche. Je me demande dans quel état tu te mets, toi, quand t'accouches. C'est bien la première fois que je tape comme ça aux fenêtres. Est-ce que cette lettre t'atteindra? Qui sait, peut-être. Et puis je m'en fous, je n'attends pas de réponse. Je voulais juste te dire respect pour ce que tu fais, ce que tes rimes dénoncent. Faire le fan de base, c'est pas ma cam. Mais sache que ta voix m'accompagne les soirs de vague à l'âme, les soirs maladroits, les soirs où ça va pas, les soirs où la vie sort l'écrou et je vois que c'est moi la proie. C'est pas la joie ici, c'est quoi la voie à prendre? Je suis perdu, je me sens seul, je sais même plus quoi attendre. Toi t'as des rêves et t'as l'audace d'aller au bout, c'est beau. Ça pousse au cul pour faire de même, j'ai coupé court très tôt. Tu dis tout haut ce que je pense tout bas et ça fait v'là l'écho. La preuve que je suis pas fou, tes textes agissent en placebo. J'ai pas l'ego pour me bagarrer. Dommage collatéraux et je noie mon spleen avec un flash de mauvaise caille à l'apéro. Je fais pas de vagues moi, moi je fais pas de bruit moi. Je rase les murs, je ferme ma gueule et j'endors pas la nuit. Si peu d'appui ici et tellement d'apathie. Dans ma tête c'est l'orage, alors merci pour la calmie.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et je suis toujours en compagnie de Didier, fondateur et directeur artistique de la compagnie Jabberwock, et Anaïs, qui est médiatrice culturelle au sein de la compagnie. J'ai réussi, je peux respirer. Juste pour la petite information, l'acteur du coup qui faisait le morceau qui s'appelle Omar avec La Canaille, qui est Serge Tessoguet. Du coup voilà, pour la petite info si vous voulez aller écouter. C'est vraiment chouette. Tout de suite, je voulais revenir avec toi sur les différents projets que vous tenez au sein du Jabberwock. Voilà, je te laisse nous présenter tout ça.
Très bien. Je précise juste que Anaïs n'a pas de micro devant la bouche, donc c'est pour ça qu'elle ne parle pas. C'est pas que je veux monopoliser l'antenne. C'est que vous ne soyez pas étonnés devant votre radio, on dire mais quand est-ce qu'elle va parler, Anaïs?
On veut savoir.
Elle est là pour le soutien, elle est top. Voilà. Donc, alors, on va parler des projets qui sont en gestation et puis des projets qui sont encore visibles parce qu'effectivement, il y a des spectacles qui tournent plus dans la région ou qui tournent plus. Donc, il y a un spectacle que peut-être les auditeurs ont vu parce qu'il tourne depuis quelques années maintenant. C'est une création qu'on a faite en 2015 à Reims et qui a beaucoup tourné en France et dans la région, qui s'appelle La fonction de l'orgasme, qui est une adaptation d'un ouvrage psychanalytique des années 30 qui a été écrit, donc le livre qui est édité d'ailleurs chez L'Arche en France, les éditeurs L'Arche, a été écrit par Wilhelm Reich, qui lui était un disciple de Freud. Et en gros, dans les années 30, en Autriche, en Allemagne, ça commence à se corser au niveau politique. Les fascistes sont en train d'arriver au pouvoir et ça va être couronné par l'arrivée d'Hitler comme chancelier. Et au moment où les psychologues, les psychanalystes prennent un peu des arrangements avec ce nouveau pouvoir en place, eh ben, Wilhelm Reich lui dit non, lui était très engagé à gauche, carrément rouge. Il fait sa thèse sur la fonction vitale de l'orgasme et comment est-ce que l'orgasme peut lutter contre le fascisme. Voilà. Donc bien sûr, c'est une espèce de vie héroïque parce que ses écrits sont brûlés par les nazis, il part aux États-Unis pour s'exiler. Et puis finalement, au départ, les gens le trouvent formidable et puis ils finissent par le trouver un peu fou parce qu'il dit qu'avec l'énergie orgasmique, on peut guérir les cancers en se branchant des tuyaux et trucs comme ça. Enfin voilà, avec l'énergie, en captant l'énergie orgasmique du cosmos, etc. Et donc il finit sa vie en prison et il meurt en prison d'une pneumonie. Et du coup, une sorte de destin héroïque comme ça. Donc on a, avec Constance Larrieux, qui est l'interprète aussi sur le plateau, on a adapté cet ouvrage-là, qui est un ouvrage de 300 pages, très documenté, psychologique, avec des schémas et des trucs scientifiques. Et puis on est parti faire des collectages auprès de professionnels de la santé, de psychologues, des coachs, des périnéologues, gynécologues, un gigolo qu'on a interviewé en Belgique. Et on a fait un spectacle performance autour de la fonction vitale de l'orgasme dans la société. Donc ce spectacle-là, il tourne encore dans la région. Et on a joué déjà à Tours, notamment Saltelem, à La Riche, à La Pléiade, là, quelques temps. Donc là, voilà, il y a encore des dates dans la région. Vous pourrez trouver les infos sur le site de la compagnie, www.compagniejabberwock.com. Voilà. Ça, c'est la fonction de l'orgasme qui, cette année, je pense, va fêter sa 70e représentation. Donc ça commence
avec
à être intéressant.
Avec
toujours la même équipe. Donc c'est un solo au plateau. Moi je fais une courte apparition pour une expérience sensorielle. Et puis voilà, c'est une petite équipe qui se déplace un peu partout sur le territoire. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Il y a le spectacle Fratrie, donc qui est un spectacle qui a été créé en 2014, qu'on a joué notamment au Théâtre Olympia, qui est une histoire de famille. Voilà, quatre frères qui vivent des aventures. C'est très émouvant, etc. C'est la première pièce qu'on a montée avec l'auteur québécois Marc-Antoine Cyr. Donc ça, c'est un spectacle qui va ressortir un peu, qu'on a joué pour la dernière fois il y a un an, un peu plus d'un an, à Monaco. Et puis là, on va le reprendre au Festival d'Anjou. Au mois de juin prochain, si tout va bien. Donc voilà, ça va être dans le coin également. Et puis, alors là, on vient d'engager ce qu'on appelle un nouveau compagnonnage d'auteurs. Alors avant, c'était avec Marc-Antoine Cyr, l'auteur québécois. Maintenant, on a engagé un nouveau compagnonnage avec un auteur français qui s'appelle Vincent Farras, qui nous rejoint sur toute l'année pour écrire une pièce qu'on lui a commandée. Cette pièce-là, pour l'instant, elle s'appelle « À voter ». Alors bien sûr, elle va changer de nom, puisque alors voilà, dans la compagnie, on travaille aussi beaucoup sur des problématiques liées à la différence, l'autre, se comprendre, arriver à se comprendre, des thématiques plus sociétales, comme avec la fonction de l'orgasme, d'une manière un petit peu iconoclaste comme ça. Et puis là, on est plutôt dans des questions sociales et des questions liées à la démocratie, liées à la citoyenneté, au vote. Et donc la commande que j'ai faite à Vincent Farras, que j'ai rencontré il y a un an maintenant au Festival Jamais Lu à Paris, à Théâtre Ouvert, qui est le centre dramatique des écritures contemporaines, ça a été une sorte de coup de cœur aussi, de découverte de cet auteur qui est édité chez Actes Sud Papier, qui est metteur en scène, qui monte jusqu'à présent ses propres textes. Et ça va être la première fois que un autre metteur en scène s'empare de ces textes. Donc l'idée du compagnonnage d'auteur, c'est non seulement cette commande de textes qui parle de la place de du fait politique dans nos vies, dans mm-hmm. notre intimité. On s'est rendu compte avec Vincent Farras que notre éveil à la vie politique, il est intervenu au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1995, au moment où le Front National s'est retrouvé au second tour. Et on partageait cette idée-là, ce fait-là, et on a eu envie d'écrire sur comment est-ce que les rendez-vous. Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou, dit que en France, il y a ce qu'on appelle un totem présidentiel, un fétiche présidentiel, qui est que le second tour des élections présidentielles, c'est un peu comme la Coupe du Monde de foot, Noël, le Nouvel An, les anniversaires. C'est des rendez-vous obligés où on se réunit, entre guillemets, en famille. Et c'est une famille élargie, on va dire, c'est avec nos amis, nos connaissances. Et puis ça va, en fait, avoir un impact fédérateur ou au contraire provoquer un éclatement, des fractures avec des gens qui sont nos proches et finalement parler politique, c'est parler de notre intimité.
Oui, tout à fait.
Donc l'idée de cette commande d'écriture, on verra après comment l'auteur Vincent va se l'approprier cette contrainte-là, l'idée, c'est de retrouver entre 1995 et 2022, tous les soirs de second tour de l'élection présidentielle, un groupe de personnes qui est à peu près le même, et de voir comment est-ce que ces seconds tours-là influencent les relations interpersonnelles. Alors bien sûr, on va se baser sur des souvenirs qu'on a. Et puis Vincent, lui, va faire aussi du théâtre, va faire une fiction de tout ça, puisque on organise aussi ce qu'on a appelé nous un chemin d'écriture. Toute la saison, il y a des rendez-vous à Tours, dans la région, et puis aussi à Paris, pour faire découvrir l'écriture de l'auteur, avec des comédiens professionnels, des amateurs, des associations, des élèves des conservatoires de Tours, de l'université, etc. Il va y avoir plein d'occasions de découvrir l'auteur et tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent. Et on organise aussi, dans le cadre de la commande d'écriture, ce qu'on appelle des collectages. C'est-à-dire qu'on rencontre des groupes de personnes, notamment voilà, Anaïs qui est présente ici, et vraiment le fer de lance de ces rencontres-là, en lien avec l'association Culture du Cœur, en lien aussi avec l'Université François Rabelais, le Conservatoire de Tours. Ça nous permet de rencontrer tout plein de gens et de leur poser des questions, de parler tout simplement à bâton rompu pas de politique, mais de souvenirs de soirées d'élection, de comment ça les a marqués, est-ce qu'on se rappelle de ça. Moi, par exemple, voilà, ça date, hein, mais je me souviens à l'époque de l'élection de François Mitterrand, de la réélection de François Mitterrand en 1988. Il n'y avait pas. À l'époque, c'était très technologique, mais on a vu la face, j'allais dire le visage du nouveau président s'afficher sur un écran de Minitel. Et c'était top. C'était le top de la technologie. Maintenant, ça a l'air hyper naze et hyper vieillot. Mais ces technologies-là ont accompagné les élections.
Oui, complètement.
Et on le voit maintenant, il y a des animations et tout, c'est hyper sexy. À l'époque, c'était pas sexy, mais les gros pixels, on trouvait ça génial, quoi.
Et puis aussi, la technologie, dans ce domaine, elle crée aussi une sympathie les uns envers les autres. Et je pense que ça a aussi changé le climat. Ça va être avec les réseaux, avec toutes ces choses-là. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai vu Saïra de Pomera.
Oui, bah ouais.
Et sur cette thématique-là, du coup. Plus ou moins, ça ira, c'est plutôt la chute du royalisme et la création de l'Assemblée nationale, en sachant que, j'explique aux auditeurs, il casse le quatrième mur, et du coup, il y a des acteurs qui sont dans le public. Et moi, je me rappelle très bien m'être assis à côté de quelqu'un, de pas savoir que c'était un acteur qui. Bonjour, ça va ? Oui, ça va ? Oui, très bien, très bien. Et à la fin de la pièce, être énervé, mais vraiment profondément vers cette personne, parce que du coup, elle défendait des choses qui étaient pas les miennes, et ça créait un engouement comme ça. Et du coup, c'est vrai que le rapport politique où on pense connaître les gens, et au final, pas forcément, ça m'amène à savoir quand est-ce que ce sera fini, ce travail, tout ce travail que vous faites.
L'écriture de la pièce ?
Oui.
Alors, le deal avec l'auteur, c'est qu'il a une saison pour écrire, on va dire un an pour écrire la pièce. Donc, la commande d'écriture a été faite au mois de mai dernier. Et donc, logiquement, si tout va bien, le texte sera dans nos mains, dans les mains d'un groupe de comédiens, comédiennes, à partir du mois de mai prochain, 2019. Donc, entre-temps, il y a toutes ces occasions pour l'auteur de rencontrer les personnes qui font partie de nos groupes de collectage, d'échanger, de faire découvrir les textes qu'il a déjà écrits. Il y a une conférence qui est prévue, par exemple, le 24 janvier à l'université. Il y a une première rencontre à l'université de Tours. Il y a une première rencontre qui a lieu là, le 8 octobre, à l'École normale supérieure, à l'ENS à Paris, autour de son écriture. Et puis, il va y avoir plusieurs actions, notamment à la fac, au conservatoire, dans des rencontres dans des librairies, etc., des bibliothèques. Mais le texte en lui-même, il sera là au mois de mai.
D'accord. Et qui est-ce qui le mettra en scène ?
Eh bien, c'est moi.
C'est toi ? Parfait. Du coup, moi, j'aime... Transition incroyable. On va faire une pause musicale et juste après, on parlera de ta vision de la mise en scène. Ça m'intéresse beaucoup. On va écouter Kikessa, qui est un rappeur du moment. Tout à fait, qui commence à monter énormément. Là, il a toutes ses dates complètes pour l'année. Il en a 5 et tout est complet. Et il sort un morceau tous les dimanches. Et là, c'est le dernier de... ou l'avant-dernier, je sais plus. Qui s'appelle Le Loin d'ici. A tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5.
Tu ne jures que par ton taf, t'es saoulé quand ton patron parle. À la base tu n'étais pas comptable, tu te saoules dans le wagon bar. Le poids de la vie t'accompagne, très loin de la vie d'Aloca. Les gens te voyaient avocat au barreau, quelque part au calme. C'est impossible que t'ailles aussi bien, je le sais, je le vois, t'es enfermé dans ton quotidien. Vas-y viens, t'es pas si faible, je suis au calme dans des eaux calmes comme un bolivien. On te dit t'es petit, t'es tout faible, t'as souvent l'impression d'étouffer. T'as touché ton pouce et t'es tout faible. Tu n'entends que quelques acouphènes. Tu veux quitter cette vie à tout prix, avant que la vie t'ait tout pris. Tu te caches derrière un sourire, pour ne pas que l'on te voie souffrir. Le froid de la vie t'accompagne, très loin de la vie d'Aloca. Les gens te voyaient avocat au barreau, quelque part d'autre. Je m'en vais d'ici, yeah. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici, yeah. Est-ce que tu me suis, si je m'en vais d'ici. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici. Est-ce que tu me suis, voilà. J'ai plus toute ma tête, j'ai fait le tour de la terre. Je suis à Tours, je suis à Bourges, je suis au bourg palette. Je me déplace en continu tous les jours de la semaine. Ça me permet d'évacuer, semer toute ma haine. On se connaît, on a déjà fait les 400 coups. On avait du temps pour faire des farces en cours. On voulait seulement rendre nos parents fiers. On aurait dû réagir avant que ça parte en couille. Est-ce que si je pars, tu me follow? Est-ce que tu resteras solo? Est-ce que tu resteras sous l'eau? Je sais que t'essaies de te rassurer. T'es le boss, c'est écrit sur ton polo, frère. Ouais, je te le dis, t'es qu'un prolo de merde. Tu vis, tu fuis dans ta bobosphère. Tu noies tes soucis dans des solos de gratte. Tes rêves vont finir dans des tonneaux de sperme. Plus assez pour laisser un pourboire. On est tous les deux dans le couloir. Plage 80, c'est tout droit. C'est le 24 octobre à la boule noire. Je m'en vais d'ici, yeah. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici, yeah. Est-ce que tu me suis? Je m'en vais d'ici. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici. Est-ce que tu me suis? Je m'en vais d'ici. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici. Est-ce que tu me suis? Si je m'en vais d'ici. J'ai dit si jamais, je m'en vais d'ici. Est-ce que tu me suis?
Chers auditeurs, j'espère que vous avez bien bougé votre popotin. Nous sommes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 en compagnie de Didier. bon, on y va. Fondateur, directeur artistique de Jabberwocky et Anaïs qui s'occupe de la médiation culturelle.
Oui, je voulais juste préciser, mais je pense que les auditeurs ont corrigé par eux-mêmes. L'événement politique dont je parlais tout à l'heure et que j'ai situé en 95, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite au second tour de la présidentielle, c'était en 2002.
2002.
Voilà. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup trop de trucs dans la tête.
Mais il faut savoir que maintenant, on a des étudiants de 2000. On a les années 2000 qui sont arrivés à l'université de Tours, quand on a un public étudiant. Bon, c'est important de le repréciser.
Ouais, ouais.
Tout de suite, on va parler de ta façon de mettre en scène. Donc moi, je n'ai vu aucun des spectacles du coup que tu as mis en scène, je le dis. Je voulais savoir un peu comment tu voyais la mise en scène. Si moi je suis un novice, je n'y connais absolument rien au théâtre, je sais même pas c'est quoi le mot théâtre. Qu'est-ce que c'est la mise en scène?
C'est une question compliquée.
Pour toi, bien sûr.
Oui, pour moi. C'est d'une certaine manière... Alors, moi, je peux dire que je viens du travail collectif. Je pense faire partie d'une génération où il y a beaucoup d'aventures collectives. Santé. Et pour moi, l'aspect de travailler ensemble, de construire ensemble, ça a toujours été au centre de mes préoccupations. Donc il ne s'agit pas, en travaillant ensemble, de trouver un consensus mou, mais il s'agit, en travaillant ensemble, d'arriver au meilleur. Alors c'est des processus, c'est-à-dire qu'il y a un processus, on va dire... entre guillemets démocratique, une utopie démocratique, c'est-à-dire qu'on va tous travailler ensemble et puis et faire des meilleurs choix. Alors après, il faut qu'il y ait un cap. Ce cap-là, il est donné par une direction artistique. Donc parfois, cette direction artistique, elle est assumée par un groupe en tant que tel. Là, moi, j'ai fait le choix en fondant la compagnie d'en prendre la direction artistique. C'est-à-dire après une dizaine d'années de collectif, j'ai eu envie d'affirmer... voilà, une certaine direction. Donc on va dire que les spectacles que je mets en scène, ils ont une volonté d'avoir un travail riche de ce collectif, de mettre des artistes, des groupes d'artistes au travail ensemble, alors des artistes qui viennent de plein d'horizons différents, des fois qui viennent de pays, de continents différents, et puis qui vont réfléchir ensemble à la meilleure forme à donner. Après, au niveau concret, dans les répétitions, le travail avec les acteurs, donc il y a non seulement le travail avec les acteurs, mais c'est aussi donner une forme à un objet théâtral. Donc, c'est pas très clair, j'ai l'impression que ce que je dis, mais mettre en scène, il y a des gens qui pourraient dire mettre en scène, c'est contrôler la forme de l'objet. Moi, j'aime dire je suis un peu comme un entraîneur de foot, quoi. C'est comment manager une équipe pour que chacun des éléments de cette équipe puisse donner le meilleur de soi-même.
Donc, t'es plutôt apprenez le texte, montrez-moi, et puis après on retravaille là-dessus, ou j'ai une idée, vous allez faire comme ça.
Alors, de manière très concrète, moi, quand je travaille, quand je prépare une mise en scène, généralement, j'ai une idée assez précise. Je me prépare assez bien, c'est-à-dire à partir du texte, s'il y en a un, d'une idée, si l'objet théâtral part de cette idée. Mais en fait, je vais déjà presque préparer une mise en scène dans ma tête, sur le papier. J'ai des idées, des images, il y a des références, je vais aller choper de la matière. Cette matière-là, généralement, je la garde pour moi, je la partage avec, on va dire, le premier cercle, c'est les collaborateurs artistiques et les collaborateurs aussi dans les bureaux, parce qu'il faut modéliser un budget. Donc on va parler de l'idée, et puis on va essayer de voir combien ça coûte, est-ce qu'on peut le faire. C'est des questions qu'on aimerait bien ne pas se poser, mais on va dire actuellement, je fais aussi partie d'une génération où on a toujours eu... relativement peu d'argent pour créer, donc on est habitué à créer avec une économie de moyens qui est assez c'est pas précaire, mais on n'a jamais été habitué à des grands budgets, et on sait que à part si on a beaucoup 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 de chance, on n'aura pas des budgets pharaoniques comme il y a pu y avoir dans les années 80, etc. Après, voilà, on travaille dans des bonnes conditions dans la compagnie, on a de quoi travailler, donc on fait des choix, voilà. Mais ça fait partie quand même de l'équation. Et puis avec les collaborateurs artistiques, que ce soit les vidéastes, scénographes, musiciens, etc. On va déjà faire un premier tour ensemble, et puis on va partager ces idées-là. Ensuite, quand les comédiens, comédiennes arrivent au plateau, moi j'aime partir d'eux, c'est-à-dire que je leur dis voilà, et puis déjà on va essayer et puis on va voir, on va faire un premier tour vite fait, mal fait, un peu comme disait Antoine Vitesse, on essaye de faire tout le plus vite possible et le plus mal possible, et avec ce qu'ils ont eux dans la tête, comment ça résonne en eux. Et puis après, après généralement je prends un tout petit temps et puis je m'adapte, c'est-à-dire que il y a des choses que je vais prendre dans ce que les comédiens proposent, et puis je vais partager mes références avec eux, je vais leur demander généralement d'amener aussi des références pour comprendre leurs univers, voir comment on peut créer et se rassembler. Mais bizarrement, et ça c'est un fait assez étrange, tout en ayant cette ouverture et cette volonté de rencontrer les acteurs comme des personnes, les spectacles finissent toujours par ressembler d'une manière ou d'une autre à ce que j'avais imaginé au départ. C'est-à-dire qu'il y a un grand détour, moi j'appelle ça, on fait un parcours long, on prend les chemins de traverse, et au final... ça finit quand même par ressembler à une esthétique. C'est-à-dire que je ne choisis pas, je ne me dis pas voilà mon esthétique, mais je me rends compte rétrospectivement, ma première mise en scène c'était 2005, donc ça commence à faire quelques années maintenant, je me rends compte que les spectacles, même s'ils se ressemblent pas tous, mais ils ont quand même plein de points communs, et le point commun dont on parle entre les spectacles, c'est surtout que j'ai des images, des idées, et qu'elles finissent par se retrouver dans ce que je vois au plateau. Ouais.
À part, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, la fonction de l'orgasme, est-ce que tu continues à être un peu acteur ou pas ?
Oui, bien sûr. Alors, bon, dans la fonction, c'est vraiment une partie très, très, très réduite. J'espère que tu auras l'occasion de découvrir ce spectacle. Mais j'ai jamais vraiment cessé d'être comédien. C'est-à-dire que... même si certaines années, je jouais dans un spectacle, on va dire une dizaine de fois par an, je ne me suis jamais arrêté de jouer. Le truc, c'est que je ne cherche plus de travail en tant que comédien depuis une dizaine d'années, mais ça m'arrive de participer à des séries télé, à des films, que d'un coup on m'appelle, on me dise « bon ben... c'est peut-être des copains qui sont metteurs en scène et qui me disent tiens, j'ai pensé à toi pour un truc, je fais ah cool, bon bah du coup j'y vais. Et puis il y a des metteurs en scène aussi qui m'ont vu il y a des années, qui me rappellent, qui disent on sait plus si tu joues, est-ce que tu joues, etc. Et là, ces dernières années, bizarrement, je rejoue beaucoup. Donc cette année, là on va dire depuis 2016, je joue vachement, je fais une, deux, trois créations comme comédien par an, à nouveau.
Oui, quand même.
Donc c'est drôle.
Moi, je vais te donner mes petites œuvres à moi.
Très bien.
Tu prendras et que les auditeurs auront peut-être déjà entendu, parce qu'on a déjà reçu un monsieur du théâtre. Et régulièrement, c'est les mêmes quand même. Ma pièce de ma vie, c'est Visage de feu de. Alors, son prénom est imprononçable. Marius von Mayenburg. Yes. Que j'ai vu mise en scène à Lille il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et voilà, du coup, si tu connais déjà, je vais faire un rapide résumé où c'est l'histoire d'un garçon qui t'a un peu torturé et qui se rappelle la dernière fois qu'il a été bien, c'est quand il était dans le ventre de sa mère, et il se rappelle très très bien. Et en fait, il se rend compte qu'il est... Enfin, le spectateur se rend compte qu'il est pyromane et il y a une relation qui se crée avec sa sœur, du coup, où sa sœur, elle, recherche... la féminité, recherche qu'est-ce qu'être une femme, est-ce que faire l'amour c'est forcément être une femme, et du coup voilà, elle a des histoires, et enfin, je parle de ce qui m'a marqué sur la pièce, et du coup elle se rend compte qu'elle tombe amoureuse de son frère, ils ont une histoire ensemble, et advienne que pourra, si un jour vous avez l'occasion d'aller la voir, allez la voir. Et il y a quelque chose d'incroyable, c'est que j'allais te donner ma série française, pareil, de mon existence, de ma vie, et ben c'est Lazy Company, et je te promets que j'ai vu cette série, j'ai adoré quoi. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Et très très souvent, je ressors Lazy Company. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir que t'en parles.
Bon, c'est cool.
Du coup, on va passer tout de suite à vos projets là sur au court terme. Qu'est-ce qui se passe avec Jabberwock, et Qu'est-ce qu'on peut attendre, Nico ?
Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Là, nous, on est plus dans une phase, à part la tournée de La Fonction, de Fratrie, dont j'ai parlé tout à l'heure, on est plutôt en phase de gestation, c'est-à-dire que là, il y a le projet de commande d'écriture qui avance avec le chemin de lecture, donc il y a plein de rendez-vous de découverte, de lecture, de rencontre avec l'auteur Vincent Farras toute la saison, on va dire jusqu'à au mois de mai 2019, donc à Tours et ailleurs. Il y a également, on est en ce qu'on appelle en période de production pour un texte inédit de Vincent Farras pour deux comédiens qui s'appelle Dans les murs, qui est un texte qu'il a écrit il y a quelque temps mais qui n'a jamais été publié. Donc c'est un cadeau que l'auteur nous fait. Il dit voilà, j'aurais envie que vous le montiez au plateau. Donc là, on est en production. Si tout va bien, d'ici un an, ce spectacle verra le jour. Et puis, on est en préparation aussi pour deux autres projets. Un projet qui est un peu la suite de La Fonction de l'orgasme, avec la même équipe artistique, qui s'appelle Le Point M, le plaisir en musique. Donc en gros, c'est une recherche qu'on a faite autour de la notion de plaisir, d'où vient le plaisir musical, d'où vient le plaisir de la composition musicale et comment la musique est présente au quotidien dans nos vies, et non seulement la musique comme on l'entend à la radio, ou, mais aussi le rythme, tout simplement comment est-ce que la musique est essentielle au règne vivant, voilà. Et donc pour ça, on travaille avec une dizaine de compositrices de musique contemporaine entre 26 et 92 ans qui viennent de partout dans le monde, qu'on est allé interviewer sur, alors que c'est que des femmes. On a fait ce choix assez radical en disant déjà la musique contemporaine, il n'y a pas grand monde qui connaît ou qui s'intéresse, enfin, en tout cas c'est une niche. En plus, si on pense aux compositeurs de musique contemporaine, d'ailleurs on dit compositeur, on ne dit pas souvent compositrice, et même les compositrices disent moi je suis compositeur. Voilà. Par exemple, Betsy Jolas, qui est notre doyenne dans cette recherche-là, qui a 92 ans, qui dit « Moi, je suis compositeur. Voilà, je voulais être Mozart. » Bon, elle a fait une très belle carrière, etc. C'est une fille passionnante. Enfin, une femme passionnante, pardon. Et donc, on est allé les rencontrer et on s'est dit... c'est une manière aussi de dire il y a des compositeurs, il n'y a pas que Pierre Boulez, que tout le monde connaît à peu près, qui est grande figure, il n'y a pas que Michel Dussapin, mais il y a aussi toutes ces femmes qui font de la musique contemporaine, et la musique contemporaine, ce n'est pas que des trucs bizarres avec des ressorts et des ventilateurs. ça peut être aussi très... c'est pas que dans les films d'horreur. Donc ça, ce spectacle-là, il est en production, il verra le jour en 2020, et normalement, voilà, on a aussi un projet autour d'un texte de Dennis Kelly, qui est un auteur anglophone, enfin anglais délicieux, sur un texte qui s'appelle ADN, qui est une sorte de polar adolescent voilà, il y a un meurtre et il faut cacher les traces. Et c'est des ados qui se retrouvent face à quelque chose qui est plus gros qu'eux, et ils vont aller de pire en pire, enfin, c'est l'enfer. Voilà, donc c'est génial. Donc voilà, alors après, ça c'est un peu les projets dans la compagnie. Mais il y a quelque chose là qu'on a fait en lien avec le Théâtre Olympia et qui a lieu dans 15 jours. En fait, le Théâtre Olympia où on a beaucoup, avec lequel on collabore beaucoup, Jacques Vincel, directeur, m'a proposé il y a maintenant un an et demi de travailler avec son ensemble artistique JTRC, et on a créé au mois de janvier un spectacle qui s'appelle Le jour où les femmes ont perdu le droit de vote. Donc c'est pour ça, on est un peu dans notre thématique, la démocratie, comment ça... voilà, c'est ça. L'idée, c'était de s'adresser à un public de collégiens pour fabriquer avec les comédiens, comédiennes de l'ensemble artistique du Jeune Théâtre Région Centre-Val de Loire, un spectacle itinérant qui vient se poser dans les collèges pour parler de la politique aux collégiens. Donc j'ai passé une commande à un auteur génial, si vous avez l'occasion de découvrir, qui s'appelle Kevin Kais, qui a écrit là-dessus. Donc on s'est basé sur le mythe de la fondation d'Athènes, parce que selon le mythe, alors, on sait très bien qu'à l'époque, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Hein. Elles étaient considérées comme des meubles dans le droit romain à l'époque. Mais le mythe, c'est qu'il y a une cité qui n'avait pas de nom, et cette cité vivait en harmonie. Les hommes et les femmes avaient le droit de vote. Tout le monde était égaux. Ça, c'est le mythe. Et puis, un jour, les dieux se sont penchés sur cette cité idéale. Ils ont dit, il faut lui redonner un nom. Alors, Zeus lui a dit, de toute façon, moi, je m'en fiche. J'ai pas besoin de donner mon nom à une cité. Je possède tout. Et donc, Athéna, la déesse de la sagesse, et Poséidon, le dieu de la puissance et des immensités marines, se sont tirés la bourre pour donner leur nom à la cité. Et puis, tous les dieux se sont fait une sorte de casting divin pour que la cité ait leur nom. Et selon le mythe, dans la cité, il y avait une femme de plus que d'hommes. Toutes les femmes ont voté pour Athéna, qui proposait comme symbole le rameau d'olivier, la paix, et contre tous les hommes qui ont voté pour Poséidon, qui ramenait une source d'eau jaillissante et le symbole du cheval, la puissance guerrière. Mmh. Et apparemment, ça n'a pas plu aux hommes, parce que selon le mythe, ils se sont réunis le soir même pour ôter le droit de vote aux femmes qui ont mis 2500 ans à les récupérer. Donc on se sert de ce prétexte mythique pour créer une sorte de spectacle de rétro-anticipation, parce que c'est dans une Athènes fantasmée qui se passe. Ça pourrait se passer aujourd'hui, ça pourrait se passer à l'époque des 12 travaux d'Astérix. Mm-hmm. Et c'est une proposition qui dure à peu près une heure, qui est assez décalée et qui va être accueillie au Théâtre Olympia dans sa version itinérante, c'est-à-dire tout le monde sur le plateau du théâtre, les spectateurs avec les comédiens, tout le monde sur le plateau, il n'y a personne dans les sièges. Et voilà, c'est du 22 au 27 octobre, ça joue deux fois par jour au Théâtre Olympia, Centre Dramatique de Tours, et voilà, c'est un spectacle qu'on adore et qui est accessible à partir de, on va dire, 10 ans. Voilà.
À partir de 10 ans.
Le jour où les femmes ont perdu le droit de vote.
Et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous restez un petit peu. J'ai une dernière question pour vous, juste après l'instant agenda. Pour toutes les personnes qui ont raté l'événement, ça se trouve à Télém, à la salle Télém. Deux, trois choses que je sais de vous. C'est un spectacle, une pièce de théâtre autour de la sécurité, du secret, les réseaux sociaux. Hier, il a été suivi d'un débat et vous pouvez le revoir ce soir à partir de 20h30. Vendredi soir, vous pouvez aller voir à l'Hurricane l'association Exode, Exode Sonore, excusez-moi, qui est un collectif de musique techno, house, electro, swing. N'hésitez pas à y aller, c'est très sympa. Big up les copains. Samedi soir, toujours à l'Hurricane, vous pourrez aller voir le collectif Omega qui vous propose une soirée beaucoup plus violente, donc dubstep, hardcore, techno, qu'on recevra normalement la semaine prochaine pour pas spoiler dans notre émission. Alors Didier, j'ai une dernière question. Tu as face à toi tous nos auditeurs. Ils sont là, ils te regardent. Tu as le mot de la fin, je te laisse terminer. Dis-nous. Qu'as-tu à dire au peuple, aux gens?
Merci d'être resté tout le long de cette émission. J'espère pas vous avoir trop rasé. Non, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Et on est très heureux parce que voilà, Radio Campus, c'est un peu une sorte de phare pour nous depuis des années. Non, c'est vrai, moi je suis très, très heureux, très fier de revenir régulièrement sur les ondes de Radio Campus.
Eh ben, c'est un plaisir. Pour nous, on se retrouve demain, même heure, même lieu, même endroit, avec presque les mêmes personnes. À demain tout le monde sur Radio Campus Tours 99.5.